Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'historien Benjamin Stora, dans son livre intitulé « Algérie 1954-1962, lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre », donne à voir toutes les mémoires. Des facsimilés de documents inédits et de plus connus, des photos, des dessins, des lettres expriment le quotidien des Français et des Algériens dans l'Algérie en proie à la guerre de 1954 à 1962 pour son indépendance. Ces documents manipulables par le lecteur sont des carnets, des petits journaux, des lettres, en couleur, des albums de famille. L'ensemble est accompagné de documents photographiques et du regard de l'historien qui, pour chaque thème traité, en une double page, fait le point en quelques lignes. Cette primauté du document sur le discours habituel historiographique en fait un livre-objet en français qui appelle le lecteur à mener l'enquête. Savoir que ces documents reproduits pour les besoins de la publication ont été des objets manipulés par des personnes dont on lit le nom, les correspondances avec leur famille, conduit à une prise directe sur l'histoire. Spécialiste de l'histoire de l'Algérie, qu'il a très largement contribué à faire connaître du grand public des deux côtés de la Méditerranée, l'historien Benjamin Stora, accompagné ici de Tramor Kemener, lui aussi historien et enseignant, ouvre sur ce sujet qui déchire encore les familles et les mémoires une autre façon de transmettre leur savoir et de faire de l'histoire. Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous par téléphone. Une histoire sans tabou sur l'Algérie est-elle enfin possible ?
C'est une histoire qui est très difficile, bien sûr, à écrire des deux côtés de la Méditerranée pour des raisons très simples. C'est que du côté français, ça a été pendant très longtemps le silence, dans la mesure où il s'agissait d'une guerre qui avait été perdu sur le plan politique par la France, pas forcément d'ailleurs sur le plan militaire, alors que du côté algérien, cette guerre était l'objet de manipulations, de réécritures. Donc d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, il était très difficile de pouvoir écrire de manière sereine, distanciée et critique cette histoire.
Aujourd'hui, les colloques avec les historiens des deux côtés de la Méditerranée se passent sans aucun problème pourtant.
Bien sûr, la connaissance a considérablement progressé sur cette histoire, sur cette guerre, depuis en particulier environ une dizaine d'années, grâce à l'ouverture des archives en France, grâce aussi aux récits des acteurs qui ont été plongés dans cette histoire, dans cette guerre, et qui ont sorti des ouvrages, qui veulent témoigner, grâce aussi au renouvellement des générations de jeunes historiens en France. Bref, on a quand même une histoire qui a progressé, notamment en France. Et en Algérie aussi, la connaissance de cette histoire a progressé, notamment par le fait que beaucoup d'acteurs algériens qui ont été engagés dans ce conflit ont commencé à publier leurs mémoires, ont publié des témoignages. Et c'est un aspect aussi qui est très important en Algérie, en langue française ou en langue arabe.
Dans les deux langues ?
Dans les deux langues. Il y a environ 200 ouvrages qui ont été publiés depuis une dizaine d'années en Algérie, donc par des éditeurs algériens. Ça, c'est fondamental. Et puis, il y a aussi le fait que des familles, notamment ce qu'on appelle des sources privées, commencent à communiquer des archives. Et puis, il y a l'apparition aussi, bien sûr, de l'autre côté de la Méditerranée, d'historiens. De sorte que en 2004, j'avais dirigé, avec l'historien algérien Mohamed Harbi, j'avais dirigé donc un ouvrage, précisément dont le titre était « La guerre d'Algérie », et qui réunissait une trentaine d'historiens français et algériens, des deux rives donc. Et c'était une première en 2004, où il y avait cette volonté d'écrire une histoire où on entend les deux voix, c'est-à-dire la voix française et la voix algérienne. Donc il y a bien sûr eu des progressions, mais il y a encore des silences, il y a encore des tabous, il y a encore bien sûr des difficultés d'écriture d'histoire, pour une simple raison, c'est qu'en France, il y a des groupes porteurs de mémoire qui vivent encore très douloureusement cette perte de l'Algérie, ce départ, cet exil, je pense en particulier aux Européens d'Algérie, bien sûr, et qui portent en eux encore cette blessure. Il y a aussi, dans ce registre, bien entendu, les harkis et leurs fils, leurs descendants. Donc, ces groupes porteurs de mémoire ont encore du mal, disons, à regarder ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est-à-dire la mémoire algérienne. Et puis, en Algérie aussi, il y a des tabous. Il est encore très difficile, disons, en Algérie, d'évoquer la question des harkis. C'est encore une question difficile à aborder. Il est très difficile aussi en Algérie d'aborder, par exemple, les divisions internes du nationalisme algérien, notamment à l'intérieur du FLN pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a encore des pistes à ouvrir, il y a encore des chantiers à développer, à mettre en œuvre, ce qui fait que cette histoire, en fait, n'est pas finie et loin s'en faut d'être écrite.
Vous écrivez dans votre introduction « L'heure est maintenant venue du passage de la mémoire douloureuse à l'histoire accomplie de la blessure à l'apaisement. Rejouer indéfiniment une guerre ancienne n'a pas de sens. » Vous avez évoqué là un petit peu les mémoires, mais est-ce que c'est les mémoires de différentes parties de cette guerre sont-elles réconciliables 50 ans après ?
Je ne sais pas si elles sont réconciliables, mais au moins il faudrait qu'elles essayent de s'écouter, c'est-à-dire de se voir et de s'écouter. La réconciliation, c'est un phénomène, un processus très compliqué, parce qu'entre ceux qui ont le sentiment d'avoir perdu la guerre, d'avoir été trahis, d'avoir été abandonnés, et puis ceux qui ont le sentiment d'avoir vécu une guerre cruelle, injuste, je pense aux Algériens nationalistes en particulier, qui étaient pour l'indépendance, c'est vrai qu'il y a là quelque chose qui paraît difficilement conciliable. C'est très compliqué. Mais au moins, avec le temps qui passe et l'arrivée de nouvelles générations, notamment de chercheurs, d'historiens, eh bien, il y a la volonté aussi de comprendre l'autre, c'est-à-dire de comprendre les motivations de l'autre, de rentrer dans l'histoire de l'autre. C'est dans cette étape-là où nous sommes parvenus aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de comprendre et de voir quelles ont été les motivations de l'ensemble des porteurs de mémoire. Je dis cela parce qu'en Algérie, cet ouvrage, donc ce livre objet, a connu un certain retentissement. Je suis allé au Salon du Livre d'Alger au mois de novembre et beaucoup de gens m'ont questionné sur ce livre. J'en avais amené quelques-uns avec moi et beaucoup se sont intéressés, ont regardé cet ouvrage. Je sais que beaucoup d'Algériens l'ont acheté en France et l'ont fait passer de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est bien la preuve qu'il y a cette circulation, cette volonté de circulation mémorielle, une attente entre les deux rives.
Est-ce que vous envisagez de faire l'équivalent avec des documents en arabe, disons une version de ce livre qui donne la parole à... comme ça,
là franchement, c'est
là, ça sera difficile.
Là, c'est plus compliqué parce que il faudrait que l'idéal aurait été effectivement pour cet ouvrage de le faire avec un historien algérien, bien entendu, de faire ce livre à deux voix. Là, pour relever le défi, et il faut effectivement que ce soit, enfin, à mon sens, des historiens algériens qui puissent faire une proposition. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de donner aussi la parole aux Algériens dans ce livre.
Hein.
On les voit dans les maquis de la LN, les immigrés,
Algériens
en France, etc.
C'est la grande originalité du livre, c'est justement de réunir toutes ces voix différentes. Hein. Il n'y a qu'à parcourir le livre. On a aussi bien un enfant algérien, un enfant pied noir, mais des maquisards de la LN, des appelés, la solitude d'un appelé, un para dans la guerre, un clandestin de l'OAS. On a un rapport à l'individu tout de suite, et ça, c'est important pour le lecteur. C'est une autre façon de faire de l'histoire pour le lecteur, en tout cas. C'est qu'il est en prise directe avec ses documents. Quel choix vous avez fait ? Comment ces documents ont-ils été sélectionnés ?
Alors, sur cette histoire, comme sur toutes les histoires, les historiens sont confrontés à une masse énorme, une masse considérable d'archives, de documents, etc. Bon, moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur cette histoire.
Oui.
Donc, j'ai eu le temps, bien sûr, d'accumuler, de voir, de trier, de classer, de hiérarchiser. Là, cette fois-ci, le choix s'est fait en fonction d'un critère d'abord, qui était celui de la nouveauté, du caractère inédit d'abord. C'est-à-dire le fait que des documents n'avaient pas été encore publiés, montrés.
Donc ça, c'est le cas de toute la partie en images, mise en page avec les objets qui sont en fac-similé.
La plupart des choses, pratiquement toutes les choses qui sont dans cet ouvrage, que ce soit les objets, que ce soit les tracts, etc., sont
des
documents
inédits.
Voilà. Hein, c'est le caractère original, le caractère
bien
inédit.
Bien sûr.
Par exemple, la lettre d'Albert Camus est une lettre qui n'a jamais été publiée, par exemple, qui figure en tant que telle. C'est le fac-similé qui est glissé et qu'on peut tirer de l'objet. Bon, ça, c'est un exemple. Mais par exemple, les lettres d'un soldat à sa famille, ce sont des choses aussi qui n'avaient jamais été montrées, etc. Donc, il y a des documents inédits. Le second aspect, bien sûr, dans le choix, c'est le côté émouvant, le côté qui est, disons-le carrément, qui touche, qui parle à l'individu, qui parle à la première personne, qui s'inscrit dans un registre qui est celui de l'émotion.
L'émotion, et là, comment se débrouille l'historien avec ça ?
Il se débrouille bien, parce que ça fait partie du travail de l'historien, de travailler sur la passion, sur les imaginaires, sur les représentations. Donc il y a la part d'émotion réelle qui existe, qui commence par, bien sûr, l'attachement d'un instituteur soldat à ses élèves dans un endroit de Kabylie, jusqu'au départ, à la fin du livre, des Européens d'Algérie, des Pieds Noirs, donc, qui font à Oran, par exemple, l'inventaire de tout ce qu'ils laissent sur place et qui opèrent comme un véritable déchirement intérieur. Donc on a par conséquent, dans ces documents aussi, une histoire à hauteur d'homme.
Oui.
C'est-à-dire, c'est une histoire qui est vécue au quotidien. Donc le deuxième élément de ce choix, bien sûr, c'est le côté, disons, émotionnel de la chose. Le troisième élément, bien sûr, c'est d'essayer de trouver des documents qui correspondent à des situations historiques qui soient suffisamment forts et suffisamment emblématiques pour montrer une situation historique, parce que le développement de l'ouvrage, il obéit à des considérations à la fois chronologiques, mais aussi à des thématiques. C'est-à-dire des thématiques. Il y a une double façon d'entrer dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on suit le développement chronologique de l'histoire, mais il y a également des grands thèmes qui apparaissent, c'est-à-dire le soldat, l'appelé, l'immigré, le harki. Mais il faut inscrire ces grands thèmes historiques dans une chronologie, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une coïncidence, c'est ça qui n'est pas évident à faire, la coïncidence entre la force du document, le thème choisi et, bien sûr, le caractère inédit.
Alors, on s'y retrouve, il y a une très bonne, en une double page, là aussi, au début, une grande chronologie de tous les événements de la guerre. Et puis, il y a aussi, à la fin, des textes et des documents. Là, alors, par contre, des textes qui sont quand même plus connus, mais qui sont repris et qui, justement, confirment et donnent un autre regard. Je pense à quelque chose de très connu, comme le manifeste du peuple algérien. Là, il est en extrait. Et dans ces thématiques que vous avez abordées, comme la colonisation en question, le déclenchement de la rébellion, les maquis, ou les maquis, et puis les pieds noirs, et puis aussi la torture, De Gaulle et l'Algérie, etc. Quels sont les débats aujourd'hui autour de la guerre que vous avez présentés dans l'ouvrage ?
Alors, il y a plusieurs débats, bien sûr, parce qu'ils sont bien sûr en rapport avec les débats actuels sur la colonisation, c'est-à-dire quel type de regard porter sur la colonisation. On sait qu'il y a ceux qui portent un regard entièrement négatif, ceux qui, au contraire, portent un regard totalement positif. Donc entre ces deux visions sur la colonisation, il y a un choc, on le sait. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est précisément une certaine distance, une certaine critique qui a abouti de manière inexorable à la guerre et à l'indépendance de l'Algérie. Donc il y a un regard, effectivement, qui n'est pas simplement objectif, mais qui est aussi un regard critique sur le processus colonial, ce qui ne veut pas dire qu'on n'entende pas les arguments de ceux qui étaient partisans de la colonisation. Mais ceci dit, la tonalité quand même de ces documents qui aboutit, disons, à des débats, montre que, dans le fond, la sortie du statu quo passée par la violence et conduisant à une guerre cruelle et donc à l'indépendance de l'Algérie. Donc voilà un type de débat qui était celui, ou qui reste celui, du passage à l'indépendance. C'est-à-dire, est-ce que c'était inexorable ? Est-ce que la manière dont ça s'est passé devait se passer de cette manière-là ? Enfin bon, il y a comme ça toute une série de questionnements. Bon, il y a d'autres questions qu'on connaît, qui sont mises en débat, bien sûr, en rapport avec des débats qui continuent d'exister, bien sûr en France, la question des exactions qui sont commises, des expériences atomiques, il y a le page consacré à cette question-là, bien sûr, sur les expériences atomiques. Donc on a des grandes thématiques et des grandes questions qui sont à la fois, qui fonctionnent comme des révélations, mais qui fonctionnent aussi comme des choses qui ont déjà été dites, déjà traitées par d'autres chercheurs, d'autres historiens, etc.
Est-ce qu'on peut tout montrer de la guerre dans un livre comme ça qui met beaucoup l'image en avant ? Je pense à la violence de la guerre.
C'est toujours très difficile de montrer la guerre. C'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de cruauté, il y a beaucoup d'exactions commises, donc il y a beaucoup de sang versé. Et donc il faut faire effectivement extrêmement attention à ne pas verser dans le voyeurisme de la guerre, mais d'essayer de contextualiser tout ça au maximum, bien sûr. Et sinon, on est dans une sorte de complaisance. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, c'est précisément de ne pas montrer tout cet aspect-là, mais d'essayer de le contextualiser, de l'expliquer, ce qui ne veut pas dire qu'on va évacuer complètement l'aspect atroce de la guerre, parce qu'il y a quand même des photographies qui sont très dures, qui témoignent de la cruauté de ces engagements.
Benjamin Stora, pour terminer, pour expliquer l'intérêt de ce livre qui peut être vraiment vu et lu et commenté à plusieurs, quand on ouvre l'ouvrage, je viens de sortir la une aussi du Libération de l'époque avec le cessez-le-feu. Donc on manipule aussi des documents presque grandeur nature.
Oui, tout à fait. Enfin, pour terminer cet entretien, effectivement, l'intérêt de cet ouvrage, c'est que le lecteur se fait lui-même historien. C'est-à-dire qu'il a lui-même sous ses doigts les archives. Il touche l'histoire. Ce sont les matériaux qu'utilisent traditionnellement les historiens pour rédiger, pour fabriquer leurs récits d'histoire. Ce sont effectivement des journaux, de la presse, mais aussi des correspondances privées, mais aussi des documents officiels, des documents d'État, y compris certains qui sont classés comme secrets, comme confidentiels. Ce sont ces types de documents que l'historien utilise et qu'il croise. Alors là, le lecteur se fait lui-même historien, c'est-à-dire qu'il peut avoir accès, non pas à des facsimilés qu'on regarderait, mais à des objets qu'on peut enlever de l'ouvrage. C'est ça qui fait
enlever,
la singularité,
glisser.
C'est-à-dire qu'on peut les extraire. On extrait les documents de l'ouvrage et on peut, par exemple, les prendre, les lire à l'époque où ces documents ont été faits. Par exemple, un des cas les plus spectaculaires de ce livre-objet, c'est le manuscrit original du discours du général de Gaulle qui ont été repris de sa main, raturés, etc. On met à prononcer le jour, disons, de son allocution, le fameux « Je vous ai compris », hein, qui, comme on le sait, a été un des moments phares de l'histoire de la guerre d'Algérie. Et bien là, on a retrouvé ce manuscrit original de sa main, raturé de sa main, écrit de sa main. Et donc ça, c'est un document que le lecteur peut prendre et toucher. Et il peut par conséquent voir et sentir ce qu'est l'histoire directement au présent.
On voit les tracts, la qualité des facsimilés est quand même exceptionnelle, elle est excellente. Merci Benjamin Stora de nous avoir présenté cet ouvrage qui appelle quand même à la nécessaire réconciliation de toutes ces mémoires. C'est une publication originale des éditions Les Arènes, à lire, à regarder, à voir, à commenter, seul ou en famille. Merci beaucoup Benjamin Stora.
Merci.